je reviendrai brièvement sur un certain nombre d'attendus tels qu'ils apparaissent sur la délibération. D'abord, je voudrais souligner une chose, c'est que personnellement et quelques élus aussi, on a participé pendant plus de 10 ans à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Et cette élaboration du schéma de cohérence territoriale s'est faite à partir d'un périmètre qui a d'ailleurs varié au cours de cette élaboration et qui s'est avéré de plus en plus pertinent. Personne aujourd'hui ne remet en cause la pertinence du périmètre tel qu'il a été défini ou tel qu'il est défini dans le schéma de cohérence territoriale. La question aujourd'hui, c'est moins une question administrative qu'une question d'ambition en termes de territoire et de réponse à une situation. Personne aujourd'hui, je ne l'ai pas vu écrit dans aucune loi, ne dit et n'écrit que les communes vont disparaître en tant qu'entité administrative. Je ne l'ai vu nulle part. Et ce dont il est question, c'est d'essayer de dimensionner les regroupements de communes de telle sorte à ce qu'elles répondent aux enjeux qui sont ceux du 21e siècle. Ce qui revient à définir aujourd'hui ce qu'est la réalité de nos territoires. Première réalité, qu'on le veuille ou pas, qu'on rêve à un passé ancien dans lequel il y avait des villages qui étaient nombreux, dans lesquels il y avait des gens qui faisaient de tout, des artisans, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Et ça n'existera plus. Hein. Le temps de l'histoire, c'est un temps réel, c'est-à-dire que ça chemine toujours vers l'avant. La réalité, c'est la concentration, et la concentration dans les agglomérations. Cette accélération de la concentration, elle se traduit chez nous comme ailleurs, par un phénomène de métropolisation accentuée, c'est-à-dire d'aspiration des fonctions sur les grandes métropoles. Aujourd'hui, plus de 60% de la valeur ajoutée créée, c'est-à-dire de la richesse produite, dans notre pays, l'est uniquement sur les grandes métropoles. 60% rien que sur les grandes métropoles. Face à ça, qu'est-ce que l'on fait? C'est la question. C'est est-ce qu'on regarde les choses se dérouler ou est-ce qu'on envisage d'être ou d'exister par rapport à cette situation et cette évolution? Le territoire urbain est une réalité. Non seulement le territoire urbain est une réalité, mais l'urbanisation et les fonctions urbaines et les fonctions sociales qui sont à l'intérieur du territoire urbain sont une réalité de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'on ne définit plus une ville en tant qu'elle est un regroupement d'espaces avec de l'habitat vertical, on définit dorénavant des aires urbaines. Et les aires urbaines, ça regroupe à la fois des regroupements de bâtiments qui sont dans la ville classique telle qu'on la connaît depuis longtemps, mais aussi des espaces qui sont des espaces, des interstices, des interstices agricoles qui sont qualifiés de territoires périurbains. Donc quand on définit une agglomération, dorénavant, on la définit dans sa globalité. L'avantage, c'est que ces territoires urbains, aujourd'hui, sont obligés, de par la situation économique, d'inventer un espace, et dans cet espace, d'inventer une dynamique. Et cette dynamique, aujourd'hui, elle s'articule autour de constantes. Et les constantes, on les a dans toutes les grandes agglomérations, comme dans toutes les métropoles. Elles sont fondées sur quoi? Sur ce qui est le facteur de production de richesse. Et la production de richesse, elle est dans le travail. Il n'y a pas d'autre production, il n'y a pas d'autre lieu de production de richesse que dans le travail. Et plus le travail est qualifié, et plus la valeur ajoutée est importante. Or aujourd'hui, qui dit travail qualifié, dit entreprise de niveau de qualification, mais dit aussi une capacité à territorialiser de la formation, c'est-à-dire des pôles universitaires dans lesquels on va pouvoir produire du travail qualifié, c'est-à-dire du haut niveau de qualification. Il n'y a qu'à prendre des exemples des métropoles. On le voit tous les matins. On sait très bien que les pôles qui se constituent sont des pôles à l'intérieur desquels les entreprises qui se fixent vont aller chercher de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre hautement qualifiée. Le deuxième centre et la deuxième constante, c'est les ressources en termes de communication. Une communication qui, aujourd'hui, est basée sur une interconnexion obligatoire. Une interconnexion matérielle et immatérielle. La chance que l'on a, et si l'on regarde bien les choses, la chance que l'on a, c'est d'avoir des espèces de prérequis sur ce territoire qui tournent autour d'une capacité aéronautique, qui tournent autour d'une capacité ferroviaire et qui tournent autour d'une capacité autoroutière. On a les trois éléments. Il nous reste que le port, mais ça, c'est plus compliqué. Donc, dans ce contexte, si on regarde bien, la croissance exponentielle des grandes agglomérations, des grandes métropoles, elle passe par un axe urbain aujourd'hui qui est l'axe Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Ça, c'est l'axe de développement et il correspond à la trajectoire des grandes des transports à grande vitesse et entre autres des tracés de la LGV. Bordeaux, demain, c'est-à-dire en 2017, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Bordeaux 2017, c'est l'arrivée de la LGV, c'est un TGV qui met Bordeaux à 2 heures de Paris. 2 heures de Paris. C'est une espèce de banlieue. Faut prendre conscience de cette réalité. Et 2 heures de Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gare de Bordeaux, qui aujourd'hui fait 11 millions de passagers, en 2017-2018, elle fera 18 millions de passagers. Et ces 18 millions de passagers, ils créent une économie. Et cette économie, elle se traduit par une énorme opération d'aménagement de territoire. Et cette opération d'aménagement de territoire, elle ressemble, pour ceux qui le connaissent, à l'aménagement qui a été engagé sur Euralil. Euralil, ça a été l'ambition à partir de ces réseaux de communication, à partir de l'interaction avec l'Inter de l'Europe et la Grande-Bretagne, de ce décollage d'un territoire qui était un territoire en déprise, qui était un territoire en crise. Le Lille du charbon qui était un territoire en crise. Le redécollage se fait par ces nouvelles orientations. Et ces nouvelles orientations, c'est la même chose à Bordeaux avec le périmètre Euratlantique. C'est la même chose. Et le projet aujourd'hui, ça représente 480 000 m² de bureaux rien que sur Bordeaux. Et je ne parle pas de l'agglomération. 480 000 m² avec un investissement. C'est-à-dire, en fait, des abondements financiers qui viennent de l'extérieur, pas simplement de l'État, mais qui sont des abondements extérieurs de l'ordre de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, le PIB pour les Hautes-Pyrénées, c'est 4 milliards par an. Le PIB pour les Pyrénées Atlantiques, c'est 14 milliards. Bon. Et là, il y a 5 milliards d'investissements qui vont se fixer sur Bordeaux. Ça veut dire que Bordeaux va gagner en 10 ans 250 000 habitants. Bordeaux. Et Bordeaux doit faire souci à Toulouse. Et c'est pour ça que les Toulousains se battent comme des fous pour avoir un barreau de TGV qui va les amener dans la liaison. Parce qu'ils savent très bien que l'enjeu se situe à ce niveau-là. Nous, si on regarde, nous, on est au sud. On peut se retrouver dans la situation qui est la situation hantée, c'est-à-dire enclavée quelque part. Parce que l'enclavement, c'est pas parce qu'on est au milieu du désert, c'est parce qu'on est mal relié. Et la mauvaise liaison fait l'enclavement et fait la difficulté. Toulouse, qui continue de croître. Toulouse, je l'ai dit la dernière fois en réunion, ça fait 160 habitants par semaine de plus. 160 habitants. Ça fait 100 000 emplois sur les 5 dernières années. 100 000 emplois, nous, ça nous fait rêver. Mais ces 100 000 emplois, il va les péquer quelque part, ça c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'aspiration. Si on regarde, c'est toujours la même chose. Si on regarde ce phénomène se passer, cette tendance se faire, et si on fait rien, eh bien, on restera en arrière. Donc, les flux qui sont à la fois la croissance naturelle, c'est-à-dire, en fait, cette population qui s'accroît, c'est une population, on verra ce que dit Michel à la dernière réunion, c'est une population jeune. Le flux migratoire, la population centrale sur Bordeaux, sur Toulouse, c'est 25-49 ans. Bon, regardez, pour mémoire, vous regarderez ce que l'INSEE donne comme tranche d'âge aujourd'hui sur les Hautes-Pyrénées. Ça fait frémir. Et donc, là-dedans, le ressort pour nous, c'est la capacité que l'on aura à pouvoir accompagner un développement, de pouvoir ne pas être laissé derrière et donc de dimensionner notre territoire pour pouvoir répondre à ces enjeux. Sur quoi peut reposer notre croissance? Parce que c'est là, en fin de compte, où on doit se situer. Sur quoi peut reposer notre croissance? Indéniablement sur le poids. Mais c'est une évidence. Sur le poids que l'on représente. C'est pas à 200, c'est le poids en nombre d'habitants et en capacité économique. Et il y a des piliers dans cet espace ainsi défini. Il y a des piliers. Lourdes est un pilier. C'est pour ça que définir craindre une perte d'identité, alors que l'identité de Lourdes à l'intérieur de ce territoire est un des piliers fondamentaux, puisque c'est le ressort sur lequel se fixe la tertiarisation touristique et l'activité touristique. Mais l'activité touristique, non pas en retrait, mais en capacité de développement. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire à l'élan sur lequel on peut se faire. En tout cas, on peut croître. Sur les atouts nécessaires à être mis en œuvre, l'accessibilité aéroportuaire ferroviaire, il y a aujourd'hui les éléments, il faut non seulement les moderniser, mais les adapter et ne pas être laissé de côté de façon à ne pas devenir par une espèce de branche éloignée de là où se situent les flux. La mise en réseau des entreprises innovantes, c'est dans l'innovation, on le sait tous, c'est dans l'innovation que l'on va trouver les ressources pour pouvoir accroître. Là aussi, que ça soit Tarn, que ça soit sur le périmètre de Juillan au sein, que ça soit à Lourdes, il y a des ressorts d'innovation. Et ces innovations ne demandent qu'une seule chose, c'est à être mises en réseau de façon à être dynamisées. La même chose sur l'accompagnement des pôles de compétitivité qui sont un des éléments sur lesquels on peut aujourd'hui construire des filières fortes. Et seulement avec ces filières fortes, on sera capable de créer, un, de l'activité et deux, de l'emploi. Sinon, il n'y aura pas d'emploi et il n'y aura pas d'activité. Et la crise telle qu'on l'a subie, on la subira encore plus. Et effectivement, le vieillissement de la population finira par paupériser cette population. Et quand j'entends dire que les projections en termes de fiscalité sont des projections telles qu'elles sont formulées dans la délibération, sont des projections qui sont aléatoires, moi je dis, c'est pas aléatoire de dire que si la population vieillit et si le nombre d'habitants, on perd 300 habitants à peu près tous les 4 ans. Si on perd des habitants, on perd du produit. Et si on perd du produit, la fiscalité, elle ne peut pas augmenter de façon indéfinie. On ne pourra pas. Et donc, forcément, tout ce qui est projet sera mis sous le boisseau. Nos leviers à nous, on les connaît. Comment les actionner? On ne peut pas les actionner de façon individuelle. Et c'est une constante depuis, encore une fois, les plus de 10 ans que j'ai travaillé sur le SCOP. On ne peut pas les travailler seul. Donc, ce n'est que par le regroupement et ce n'est que par la dynamique que l'ensemble des communes pourront apporter que l'on aura une réponse. Alors certes, ça pose un certain nombre de problèmes, certes, ça bouscule un certain nombre d'habitudes, mais je ne pense pas que l'on puisse rester figé dans le temps alors que l'histoire est en train d'avancer. Faute de quoi, eh ben, on ratera un rendez-vous avec l'histoire.